Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et à Kolondjeba, mesdames, messieurs, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, les auteurs des coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 sont amnistiés. Le Conseil national de transition, l'organe législatif, a voté ce jeudi les deux projets de loi à la majorité écrasante. La quatrième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation se tiendra ce samedi 18 septembre 2021 à Bamako. 17 victimes, dont 13 hommes et 4 femmes, vont partager leurs histoires. Trois autres membres de la Fédération malienne de basketball suspendus par la FIBA dans le cadre de l'affaire dite de harcèlement sexuel. En revanche, le président Aman Niang est blanchi. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, mise en nom de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les militaires qui ont renversé en août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta et le 24 mai 2021 le président Bandao sont amnistiés ainsi que toute autre personnalité liée à ces événements. La décision a été prise ce jeudi 16 août par le Conseil national de transition qui a voté deux projets de loi dans ce sens. Le verdict était de 99 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Les détails avec Mamadou Samasekou.
Ce projet de loi d'amnistie a été soutenu par la majorité écrasante des membres du CNT. Selon ces derniers, ce vote n'est pas une prime à l'impunité, mais plutôt une application de la charte de transition. Souleymane D, président de la commission de loi du CNT.
Pour tous ceux qui connaissent la hiérarchie des normes, une loi ne peut pas supplanter une constitution. Donc, la loi d'amnistie ne concerne pas le coup d'État. La loi d'amnistie concerne un certain nombre d'infractions. Pour arriver là où nous sommes, forcément, des infractions ont été commises. Voilà. Et ce sont ces infractions-là qui font l'objet aujourd'hui d'amnistie.
Pourtant, l'adoption de cette loi inquiète même au sein du Conseil national de transition. Pour Ramata Diaouré, membre du CNT, il est aujourd'hui important de prendre des dispositions pour éviter qu'on retombe en permanence dans des situations de rupture de la légalité.
Je pense que nous sommes en train de prendre un mauvais chemin puisque nous avons déjà eu l'occasion d'avoir ce type de loi et on va se retrouver avec des personnes qui ont commis des actes et un État, le ministre de la Justice vient de nous le dire, qui va s'engager à assumer les conséquences financières des actes commis par certaines personnes. Que cette loi, elle a été adoptée, c'est le principe de la majorité, mais personnellement, je suis parfaitement contre.
Rappelons que l'article 19 de la charte adoptée en septembre 2020 stipule que, je cite, les membres du Comité national pour le salut du peuple CNSP et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 18 août 2020 à l'investiture du président de la transition bénéficient de l'immunité juridictionnelle et par conséquent ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors des 10 événements. Pourtant, la constitution actuelle du Mali, adoptée en février 1992 et qui n'a pas été suspendue, considère un coup d'État comme un crime imprescriptible.
Reportage signé Mamadou Samasekou. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La quatrième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation se tient ce samedi 18 septembre 2021 au CICB. Les responsables de la CVJR l'ont annoncé hier lors d'une conférence de presse. Ils ont expliqué que cette nouvelle audience sera consacrée aux trois précédentes qui ont été axées sur les atteintes au droit à la liberté, à la vie et les disparitions forcées. Lors de ces assises, 17 victimes de graves violations des droits de l'homme vont témoigner publiquement. Arkia Touré.
Au cours de cette quatrième audience publique, 17 victimes, dont 13 hommes et 4 femmes, vont partager leur histoire. Pour la Commission Justice, Vérité et Réconciliation, ce cadre va aussi permettre de faire le point des trois précédentes audiences. Ousmane Oumarou Silibé, président de la CVJR.
Maintenant que les audiences publiques commencent à être popularisées, permettent vraiment aux populations de prendre conscience de ce qui est arrivé, parce que ce sont quand même des thématiques assez graves. Les atteintes au droit à la liberté, les atteintes au droit à la vie, les disparitions forcées.
À la question de la réparation politique pour les victimes, Ousmane Oumarou Silibé affirme que c'est un long processus qui se fera à plusieurs niveaux.
Tant qu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas faire des réparations. Sur la base de la loi qu'on fait des réparations. Quand cette loi sera adoptée également, il faut mettre en place une structure et un organe qui va faire ces réparations. Nous, nous ne pouvons pas réparer. Ce n'est pas notre mandat. Cet organe aussi, on prend une loi pour créer cet organe, l'installer et après, il faut réunir les fonds. Franchement, c'est un processus assez long.
À ce jour, la CIVJR a enregistré 22 226 plaintes. Cette quatrième audience publique non judiciaire se tiendra ce samedi 18 septembre au CICB.
Lutte contre le terrorisme. À présent, la France a confirmé ce mercredi la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef de l'État islamique dans le Grand Sahara. Selon les autorités françaises, le chef djihadiste a été neutralisé lors d'une frappe de la force française Barkhane entre Menaka et la frontière nigérienne. Adama Amadou Haïdara.
Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel, a tweeté Emmanuel Macron ce mercredi soir. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat, a-t-il ajouté. La ministre française des armées, Florence Parly, s'est aussi félicitée de cet exploit qui, pour elle, est un coup décisif contre ce groupe terroriste. La mort du chef de l'EIGS, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, est confirmée quelques semaines après l'annonce faite en août dernier sur les réseaux sociaux. Âgé d'une cinquantaine d'années, il était connu pour ses attaques meurtrières au niveau des trois frontières. Une zone comprise entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
8h06 à Bamako, la Fédération internationale de basketball FIBA a suspendu cette semaine trois autres membres de la Fédération malienne de basket. Une situation qui intervient après la publication des nouveaux rapports qui disculpe Aman Yang, président de FIBA Monde. Ces personnes sont poursuivies dans l'affaire dite de harcèlement et abus sexuels au sein du basketball malien. Cependant, l'équipe de juristes mandatée pour enquêter déplore une acceptation, une pratique institutionnalisée de la maltraitance au sein de la Fédération malienne de basketball. Ali Cissé nous en dit plus.
Ce nouveau rebondissement concerne trois membres de la Fédération malienne de basketball. Il s'agit de l'entraîneur assistante de moins de 19 ans, fille, Fanta Diallo, le secrétaire général, Seydou Maïga, et le vice-président Amadou Traoulé. Ces trois personnes ont été suspendues mardi dernier par la FIBA. Elles sont toutes accusées dans l'affaire dite de harcèlement et abus sexuels au sein du basket malien. Le rapport de l'équipe mandatée par la FIBA met en avant la gravité des faits. Elle a cité l'existence au sein de la Fédération malienne de basketball d'une acceptation institutionnalisée de la maltraitance des joueuses. Le document précise que rien n'a été fait pour reconnaître ou corriger cela. Un premier rapport datant de juin dernier a déjà permis l'inculpation et l'emprisonnement du coach des filles de moins de 18 ans, Amadou Bamba. Il est accusé de pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur. Le président de la fédération Boubacar Maïga, l'entraîneur Omar Sissoko et l'officiel Hario Maïga ont également été suspendus. Le président de la FIBA Monde, Haman Nyang, a finalement été blanchi après trois mois de suspension. Les enquêteurs disent n'avoir pas eu de preuves de sa culpabilité.
Alors, c'est dans ce contexte de scandale d'abus sexuels et de primes impayées que la sélection malienne participe au championnat d'Afrique de basketball féminin. La compétition s'ouvre aujourd'hui au Cameroun. Pourtant, des chroniqueurs affirment que cela ne devrait pas avoir un impact sur la performance des joueuses. Adama Maïga est chroniqueur. Il est joint par Ali Cissé.
On peut dire que l'équipe du Mali ne va pas participer à cette compétition avec son effectif au grand complet à cause de primes impayées. Il faut savoir que ce problème de harcèlement ne concerne que les équipes de catégorie, c'est-à-dire les équipes de moins de 16 ans et les équipes de moins de 19 ans. Alors que la majeure partie des joueurs qui composent cette sélection nationale, ce sont des joueurs de l'équipe senior. Donc je pense que cette affaire ne doit pas avoir quand même des conséquences sur le plan sportif pour les ex-dames du Mali. Pour des instances comme la fédération, le secrétaire général est un des cerveaux principaux de l'organe. Si celui-là n'est pas là, administrativement, ça fait quand même secouer aujourd'hui la Fédération malienne de basketball. Cependant, malgré tous ces problèmes-là, nous pensons que nos hommes vont aussi très très haut le drapeau malien.
À l'instant, Adama Maïga, chroniqueur sportif, il était interrogé par Ali Cissé. Parlons de culture à présent. Dès les premières heures de l'indépendance, le Mali s'est rapidement imposé dans le monde comme un pays de culture, rapporte des acteurs culturels. Ils expliquent que les pères de l'indépendance ont mis la culture au centre de leur politique, cela dans le but de permettre un brassage et inculquer certaines valeurs. Sur l'échiquier international, le pays a engrangé de nombreuses distinctions, disent-ils, mais depuis des années, la culture n'a plus son rayonnement d'antan, regrettent ces hommes de culture. Ce reportage de Juliette Koulibaly s'inscrit dans le cadre de notre série de productions liée au 22 septembre. Nous l'écoutons.
Le premier festival africain à Bamako en 1958 a balisé le chemin pour l'orientation culturelle du Mali. Une orientation donnée dès l'indépendance en 1960, comme nous l'explique Magma Gabriel Konaté.
Il fallait cristalliser l'indépendance et assurer un enseignement de masse par le brassage lors des semaines culturelles. Et il s'agissait surtout de réhabiliter socialement l'homme malien et africain. C'est ce qui a donné naissance à la première semaine de la jeunesse en 1963.
L'instrumental national fait partie des nombreuses initiatives de promotion de la culture malienne après les indépendances. Il a fait connaître le pays à l'international. Il a été d'ailleurs primé médaillé d'or en 1966 au premier festival des arts nègres. Kardjigé Laïko Traoré, homme de culture et enseignant à la retraite.
Ces troupes-là visitaient tous les continents, les ballets maliens et l'ensemble instrumental que vous entendez comme ça, ils étaient les premiers ambassadeurs du Mali dans les pays étrangers. C'est les pays qui invitaient ces groupes-là, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, les États-Unis et comme ça.
La culture malienne ayant perdu son prestige d'antan, Kardjigé Laïko Traoré estime qu'il faut redonner à la culture la place qui est la sienne, alors que Magma Gabriel propose la construction d'un Malien nouveau.
Toute cette semaine, vous pourrez suivre des reportages et des magazines, mais également des interviews sur le 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 18 nouveaux cas, 13 patients guéris et 2 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. La situation cumulée est de 15 020 cas positifs, 14 203 guéris et 545 décès. Retrouvons la rubrique Actu Covid avec Khalifa Goïta.
Le Mali a reçu 40 000 doses de vaccins anti-Covid-19 la semaine dernière. C'est une initiative de l'OMS pour participer au réseau mondial de recherche sur les vaccins Covid appelé Essai Solidarité. L'annonce a été faite par les autorités sanitaires le mercredi dernier au cours d'un point de presse. L'essai Solidarité est un essai clinique international qui vise à trouver un traitement plus efficace contre le Covid-19. Écoutons professeur Samba Ousmane Sow, coordinateur national de la cellule de lutte contre la Covid-19.
Le Mali a travaillé dur pendant des décennies pour mériter cette sélection. Parce que c'était un véritable examen à l'échelle internationale, une sélection rigoureuse de tous les pays. Et on a fait la cartographie des centres de recherche à l'échelle internationale. Et encore une fois, notre pays, grâce aux différentes équipes de recherche, grâce à l'ensemble du pool de chercheurs au Mali, dans tous les domaines, la santé et les autres domaines. Et ce n'est pas que sur les vaccins, c'est aussi sur les traitements. Mais c'est aussi sur les sécrétions biologiques pour bien comprendre ce nouveau virus, connaître ses habitudes, connaître l'épidémiologie de ce virus. Tous les produits du monde sont passés par là et passeront par là. C'est volontaire. Ce n'est pas des vaccins nouveaux pour voir si ça tue ou si ça ne tue pas. Non, c'est une phase où on est en train de voir l'efficacité à grande échelle.
Qui seront les cibles ?
Les personnes âgées de 16 ans et plus, en bonne santé, qui n'ont pas reçu d'autres vaccins Covid et qui n'ont pas fait la maladie Covid. Le travail commencera très bientôt et cela fera l'objet d'un autre communiqué.
Le saviez-vous? Les patients guéris du coronavirus n'ont besoin que d'une seule dose de vaccin. Cette rumeur circule sur les réseaux sociaux, mais des spécialistes de la santé réfutent cette information. Elle n'a aucune base scientifique, disent-ils. Ces médecins recommandent aux personnes guéries de la COVID-19 de se faire vacciner, mais en observant 1 à 3 mois d'intervalle entre la guérison et la vaccination. Fin de la rubrique Actu Covid de ce vendredi. À la semaine prochaine pour d'autres informations.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, un homme a été retrouvé mort chez lui-même dans le village de Nayo, commune de Kolongo, ce mercredi 15 septembre. Informés, les éléments de la brigade territoriale du Massina s'y sont rendus sur le lieu pour constater les faits. Les premières enquêtes indiquent que l'homme a été tué par balle. Une jeune femme âgée de 31 ans est décédée des suites d'une morsure de serpent la semaine dernière à Oussoubidjania, cercle de Bafoulabé. Les habitants ont indiqué qu'en moins d'un mois, ce sont 4 personnes qui ont été mordues par des serpents dans la localité. Toutefois, les autorités locales regrettent que les victimes ne se rendent pas au centre de santé. Elles font plutôt confiance aux médicaments traditionnels, disent-elles. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo, mis en nom de Mamadi Keïta. Vous pouvez retrouver et réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.